Demain, un mouvement de grève rarissime se tiendra dans la diplomatie contre la réforme de la haute fonction publique qui prévoit la fin de ces grands corps dans lesquels les fonctionnaires travaillaient à vie. Le corps diplomatique est de cela. Et parmi les protestataires, certains signent d'un nom collectif, Suzanne Borel. Dans le vif de l'histoire, aujourd'hui, Jean Lebrun, qui était Suzanne Borel?
Eh bien, la première femme à avoir pu entrer par une porte entrebâillée dans la carrière. C'est le titre d'un de ses livres de souvenirs. Il était une fois, Bruno, un concours des affaires étrangères. C'était il y a très longtemps, 1928, avant l'ENA, avant le remplacement de l'ENA par Macron. Le ministre d'alors veut faire plaisir à sa nièce, qui s'est mise en tête de s'y présenter. Il ouvre subrepticement le concours aux femmes, mais la nièce échoue à l'oral. Alors, on n'y pense plus. Peu après, au concours de 1930, une copie a passé l'obstacle de l'écrit. Elle se révèle être, horreur et damnation, celle d'une jeune femme, Suzanne Borel. Alors, il faut bien lui laisser passer l'oral.
Oui.
Et là, l'embarras grandit. Suzanne Borel, diplômée de Sciences Po, de chinois à Langzo, licenciée de philo, se révèle excellente, pleine de fougue, d'assurance, et faut la recevoir. Mais que faire d'elle? La diplomatie est un métier, assurent aujourd'hui les agents du Quai d'Orsay. Ceux de 1930 disaient la même chose, mais pour en conclure qu'il ne pouvait être exercé par une femme. Alors il dépose un recours administratif, il ne l'emporte pas, mais Suzanne Borel non plus. Aucune femme ne sera recrutée à son grade avant 44. Et elle, pour être tolérée, doit s'engager à ne pas postuler pour l'étranger, ce qui est un compte, quand même, ok, vous l'admettrez.
Oui.
Elle va contribuer à la politique culturelle française vers l'extérieur, par exemple, à la préparation du premier festival de Cannes, qui était en 39 destiné à contrer la Mostra de Venise de Mussolini. Autant que des amis reconnaissants, elle se crée des ennemis. L'écrivain Roger Perfitte, qui a tâté de la carrière, l'appelle « Mademoiselle Crapote » ou « La Crapucelle d'Orléans ». Et il note avec mépris qu'elle reprise ses bas, Bruno, et tricote ses chandails.
Alors, Roger Perfitte n'est pas réputé pour ses actes de résistance.
Non.
Suzanne Borel, oui.
Le roman « La fin des ambassades », Perfitte toujours, commence en décembre 1938 à la fenêtre de son bureau. En se penchant, elle voit le cortège de Ribbentrop, le ministre d'Hitler, reçu en grande pompe au quai. « Voilà l'homme à abattre !» s'exclame-t-elle. En 1940, elle ne quitte pas l'administration, mais une fois son service transféré à Vichy, elle distribue autant qu'elle peut de fausses invitations à l'étranger, de visas pour l'Espagne et le Portugal. C'est grâce à elle que Louis Jouvet et sa troupe partent pour le Brésil, puis une tournée fameuse en Amérique latine. Et à Vichy, elle garde le franc-parler qui a fait sa réputation. Un jour, accidentée avec son vélo dans la montagne bourbonnaise, elle est recueillie par un cabriolet conduit par le médecin du maréchal Pétain, Ménétrel. Il lui apporte les premiers soins. Et à peine revenue dans la ville d'eau, qu'est-ce qu'elle dit? Je veux un vrai médecin. Dans les liasses de J.O. qu'elle expédie, elle glisse des documents confidentiels qu'elle destine à des camarades qui viennent les chercher à Vichy, et parmi eux, Georges Bidault, qui deviendra président du Conseil National de la Résistance.
J.O. Journal officiel. Georges Bidault va faire appel à elle quand il est nommé au Quai d'Orsay après la Libération.
SB, Suzanne Borel, est directrice adjointe du cabinet. Il y avait bien eu une vingtaine de femmes dans les cabinets ministériels de Vichy. Mais cette promotion-là fait d'autant plus jaser que Suzanne, en 1946, devient SB. Enfin, Suzanne Bidault, elle oui. épouse le ministre. Alors ça fait un drôle de couple qui va s'avérer insubmersible. Vous savez, à la façon du dessinateur Dubout, lui de la taille d'un moineau, pour dire vive la France, il se hisse sur la pointe des pieds. Elle, impérieuse, définitive, elle l'entraîne dans des lieux de retraite improbables, en Bretagne, en forêt de Rambouillet, il la suit sans quitter son chapeau et son costume trois pièces. Elle aurait bien fait de le retenir sur la pente qu'il descend. La défense de l'Empire, en dépit du bon sens, celle de l'Algérie française au nom de l'honneur, et ce jusqu'à justifier les pires attentats d'extrême droite. Bidault va perdre tout dans ses aventures, il va devoir s'exiler en 1962, et elle va être mise en congé par le quai. Elle n'aura pas dépassé ce rang de ministre plénipotentiaire qu'aujourd'hui les diplomates frondeurs du quai voudraient maintenir. L'exil commencé en Suisse se prolongera au Brésil, là où Suzanne avait organisé le séjour de Jouvet, et le couple rentrera discrètement en juin 68, sans retrouver jamais sa place dans la vie publique. Elle ne figure pas dans le dictionnaire des féministes de Christine Barr, elle n'en était pas une. La liberté de ses propos faisait croire qu'elle se tenait en dehors de la politique, alors que tout la tirait vers la droite. Je ne sais si les jeunes diplomates qui s'abritent aujourd'hui sous son pavillon savent beaucoup d'elle, ils se sont pas trompés en la choisissant. Elle préférait la tradition à l'innovation.
Jean Lebrun, le vif de l'histoire est donc cette grève dans la diplomatie française, c'est demain.
France Inter.